Bonsoir. Plusieurs cas de décès enregistrés dans les prisons de la RDC. Le dernier cas en date est celui de 3 détenus de la prison centrale de Makala, morts à cause de la famine et par manque de soins de santé appropriés, selon une alerte lancée dimanche dernier par la Fondation Bill Clinton. Du côté du ministère de la Justice, le vice-ministre a indiqué que son ministère est toujours en attente des fonds pour ravitailler les prisons, des fonds que le ministère des Finances n'a pas encore débloqués. Quelle analyse sera des conditions carcérales en RDC? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mercredi 8 janvier 2020. Et pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Bernard Takaïché, vice-ministre à la Justice. Monsieur le vice-ministre, bonsoir.
Bonsoir.
Emmanuel Cole, représentant de la Fondation Bill Clinton pour la paix en RDC. Monsieur Emmanuel Cole, bonsoir.
Bonsoir.
Et Onésime Ndoudi, le président national de l'Organisation congolaise pour la défense des prisonniers. Monsieur Ndoudi, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Vous êtes nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas des héritiers Wamenga depuis Kisangani. Dans les prisons de Kisangani, il y a non seulement la famine, mais aussi les conditions sanitaires qui laissent à désirer. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de légèreté dans la gestion des affaires de l'État dans mon pays. Doyen Moïse Moutira, depuis Butembo, au Nord Kivu, les prisons au Congo sont des mouroirs. Merci de nous suivre à Kikwit sur la 103.5. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Radio Okapi. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
Je l'ai dit, plusieurs cas de décès enregistrés dans les prisons de la RDC. En Nord Kivu, les autorités pénitentiaires de la prison centrale Mounzenze de Goma tirent la sonnette d'alarme sur la situation alimentaire et sanitaire déplorable qui sévit depuis 3 mois maintenant dans cette maison carcérale. Ces responsables craignent que la situation ne s'empire si rien n'est fait dans l'urgence par le gouvernement et d'autres partenaires. Déjà, quelques cas de décès sont enregistrés parmi les détenus et les 2500 pensionnaires n'ont pas à manger et sont en proie à une diarrhée depuis le mois dernier. Le directeur de cet établissement carcéral, Patrick Mukendi, explique au micro de Gabriel Waminia.
La situation alimentaire est vraiment déplorable au niveau de la prison centrale de Goma parce que c'est maintenant 3 mois que nous sommes en rupture de stock. Cela a vraiment des conséquences. Les conditions sont vraiment difficiles à la prison centrale de Goma. Nous avions connu certains cas de diarrhée et cela est toujours dû par la situation alimentaire que nous connaissons actuellement à la prison de Goma. Bien qu'on peut donner les médicaments, mais quand les détenus ne mangent pas, ça pose des problèmes sérieux sur la santé de ces personnes qui sont en détention à la prison centrale. Il y a un nombre important de détenus qui sont en train d'être traités par l'équipe de la prison. C'est vraiment compliqué et difficile. La situation alimentaire que nous avons à la prison centrale ne peut pas manquer que nous connaissons les cas de décès. Et nous disons que si rien n'est fait à l'urgence, nous risquons de connaître des catastrophes parce qu'actuellement nous avons environ 2500 détenus dans une situation pareille.
Signalons que cette situation est aussi observée dans la prison de Walikale depuis plus d'une année maintenant. Emmanuel Cole, vous êtes représentant de la Fondation Bill Clinton pour la paix en RDC. Vous avez alerté dimanche dernier dans un communiqué les décès des 3 détenus à la prison centrale de Makala, détenus, c'est-à-dire des personnes qui n'étaient pas encore jugées. Vous dites que ces personnes sont décédées à cause de la famine et manquer des médicaments. D'où tirez-vous toutes ces informations?
Bon, merci beaucoup. Mais pour commencer à répondre à votre question, je préfère attirer l'attention des politiciens congolais ou les dirigeants d'aujourd'hui pour lui dire que autant que les droits de l'homme et la démocratie réelle n'ont pas consenti en RDC, pratiquement en Afrique, importe qui peut être prisonnier. Donc, c'est comme un proverbe dit, si tu es en train de manger les mains d'un singe, il faut regarder aussi votre change. Madame, ce qui est en train de passer de prison de RDC, pratiquement celui de prison centrale de Makala, est déplorable. Et il y a un génocide qui est en train de préparer. Le problème ne date pas aujourd'hui. Les prisonniers morts tous les jours, même le régime passé, c'était la même chose. Mais on cache. On ne dit pas la vérité. Lorsque quelqu'un est mort, le matin à 4 heures, on fait sortir le corps et le corps est disparu. On n'informe même pas les parents, même la famille, on n'informe même pas et le corps est parti. C'est maintenant que des gens commencent à parler parce que tout était camouflé. Vous voyez, c'était un pouvoir, comme vous-même vous savez comment était, c'était un pouvoir policier. Donc il était difficile de pénétrer pour dire la vérité. Mais Dieu merci, avec l'arrivée de président Ferris, même si on n'a pas atteint les droits de l'homme 100%, mais au moins on peut dire, par rapport à l'ancien régime, ainsi, ça commence à améliorer. Donc, madame, pour vous dire que nous avons l'information depuis le 1er jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu les 17 morts, nous avons enregistré avec le nom et tout, nous détient 11 à 12 qu'on peut vérifier et tout. Mais
11 à 12 morts à Makala, oui, ou bien Makala, dans Makala, toutes les prisons depuis le 1er janvier.
Oui, à Makala. Je n'ai pas dit autre prison, à Makala. Détente vous dit que si vous arrivez prison centrale de Makala, vous visitez pavillon 3, pavillon 4, pavillon 5. Madame, si tu es croyant chrétien, tu quittes là-bas, tu ne peux pas manger. Vous voyez, il y a certains groupes là, ils sont ce qu'on appelle ça Bassou. Les pieds avec les prêts, l'eau commence à sortir et madame...
Ils ne sont pas pris en charge. Ils sont abandonnés.
Madame, oui, c'est-à-dire que même s'ils sont soignés, mais ils ont eu cette maladie-là au niveau de prison. Donc, pour vous dire qu'il y a une épidémie, il y a une épidémie, les prisons sont très sales, étouffées, surtout depuis que on a été réhabilité, pavillon 8 est fermé, pavillon 10 est fermé, pavillon 6 et aussi on n'est pas en bon état. Donc, on ne garde pas des gens en haut, on regarde seulement des gens en bas. Donc, avec 8300 quelques prisonniers, en tout cas, on a un trade, parce que le directeur de prison, il ne peut pas faire autrement. Il est obligé de mettre les prisonniers dans un endroit où, en tout cas, les conditions n'ont pas favorables parce qu'ils sont vraiment beaucoup étouffés. Et pour vous dire que l'État congolais, normalement, si on va en détail, il nourrit seulement 20% des prisonniers. Parce que plusieurs prisonniers, eux-mêmes, sont pris en charge. Nourriture, les soins médicaux, tout. Hein, nous avons trouvé quelqu'un, par exemple, des gens de dossier de Kabila. Ils sont là, c'est fait aujourd'hui, 18 ans. Et depuis là, c'est eux-mêmes qui se nourrissent. Dit-elle, ils ne nourrissent pas. Même lorsqu'ils sont malades, le problème d'hospitalisation, c'est les familles qui payent. Il y a conseiller Nounou qui vient d'être opéré par les yeux. Il a payé 700 dollars. Dit-elle n'a pas donné même un dollar.
Alors, dans votre communiqué, vous dites, dans un état de droit, lorsqu'un prévenu meurt en prison, l'État doit des explications à sa famille jusqu'au dédommagement, ce qui n'est pas le cas en RDC. Qu'est-ce qui vous fait dire cela?
Oui,
mais... Vous pensez que l'État congolais ne dédommage pas les familles des prévenus qui meurent en prison?
Madame, je suis en train de vous dire que l'État congolais, c'était un État qui avait fabriqué les fausses accusations, le montage, on avait arrêté des gens, commencé par des gens de MNC, les militaires de MNC, beaucoup étaient arrêtés, certains sont faits 7 ans, 8 ans, et ils sont libérés comme ça. Certains sont morts en prison, et ils n'étaient pas condamnés. On a libéré comme ça. Madame, croyez-vous d'un état de droit, on peut prévoir la vie de quelqu'un pendant 7 ans, sans être jugé, et on vous libère comme ça, et l'état vous laisse partir? Non. Dans un état de droit, lorsque un prisonnier préventif mort en prison, l'État doit expliquer pourquoi cette prévenue est morte. Parce qu'elle n'était pas condamnée. Elle n'est pas condamnée, donc c'est possible qu'elle est détenue préventive. Et lorsqu'un détenu préventif est mort, l'État doit dommager la famille, surtout que si la procédure est illégale. Et je suis en train de vous dire que tous les cas, sur 8300 que je suis en train de vous dire, madame, tu peux aller vérifier, vous trouverez que seulement 500 personnes qui sont condamnées.
Merci, Monsieur Cole. On va vous redonner la parole tout à l'heure. Le temps pour nous de prendre Bernard Takaïché, qui est vice-ministre à la justice. Monsieur le vice-ministre, plusieurs cas de décès enregistrés dans les prisons de la RDC. Les derniers cas en date, on l'a dit, c'est les trois détenus qui sont décédés à la prison de Makala. Vous avez suivi aussi le reportage de Goma, où on parle des conditions carcérales très difficiles, des décès dans la prison de Mounzé. Est-ce que vous êtes au courant de cette situation?
Merci, madame, pour la question. J'ai dit d'abord, dans un premier temps, que à Kinshasa, comme partout ailleurs, les gens meurent. Si vous mettez sur la route qui mène vers Mbeke, vous allez voir combien de cadavres.
Là, on est en train de parler des prisonniers, monsieur le vice-ministre. On parle des prisonniers.
Je suis en train d'arriver. Les gens meurent chaque jour. Ce n'est pas parce qu'un prisonnier est mort aujourd'hui, est décédé aujourd'hui, et qu'on doit généraliser la situation, que la situation est exécrable, les prisons sont dans une situation difficile, et les gens meurent. Non.
Mais est-ce que ce n'est pas le cas? Les conditions carcérales sont comment en RDC?
J'en viens, madame. Les gens meurent chaque jour. Quant à ce qui concerne ce qui se passe en prison, particulièrement à la prison centrale de Makala, ce qui est vrai, il y a un surpeuplement dans cette prison-là. Mais ce qui est vrai aussi, vous avez vu, le vice-premier ministre et moi-même étions partis procéder à une première vague de libération des prisonniers. C'est pour chercher à désengorger cette prison-là. Et ces processus-là continuent jusqu'à ce que nous allons stabiliser la situation.
Et ces prisonniers qui sont libérés, ils sont jugés ou vous les libérez parce qu'il faut désengorger la prison, parce qu'il faut créer de l'espace à la prison de Makala?
Non, ils ne sont pas libérés pour être libérés, non. Ils ne sont pas libérés pour libérer. Ils sont libérés parce qu'il y a certaines conditions, sur base de certains critères. Et cela, en amont, il y a l'inspecteur général de service judiciaire qui passe, que nous avions instruit, et qui passe à la prison pour procéder au contrôle, ensemble avec les procureurs généraux de Kinshasa. Il vérifie les conditions, il vérifie la situation de tous ces gens-là. Et ce n'est après qu'ils font un rapport, c'est sur base de ce rapport-là, que le ministère de la justice procède à la libération des prisonniers. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est fait à la vaille, non. Voilà, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses.
Allô, monsieur le vice-ministre?
Oui.
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 Est-ce que vous m'entendez?
Je vous entends.
Oui, est-ce que vous reconnaissez que la situation ou les conditions carcérales sont déplorables en RDC?
Mais c'est ça ce que je suis en train de dire, madame. Nous sommes en train d'améliorer. Et chaque jour, le vice-premier ministre ne cesse de le dire. Nous sommes en train de vouloir humaniser. Ce n'est pas parce que nos compatriotes sont en prison que nous devons les traiter, qu'ils ont perdu tout le droit. Non. Ce sont des compatriotes qui ont tout le droit, simplement, ils ont enfreint à certaines règles de la société. C'est comme ça qu'ils se retrouvent là-bas. Et ils ne doivent pas être privés de leurs droits.
Et depuis le début du mois de janvier, on a comptabilisé déjà 10 morts, rien qu'à Makala. Et à l'intérieur, on ne sait pas combien de prisonniers sont décédés.
Les morts, maman, il y en a toujours. Il y en a toujours, c'est pas parce que...
Mais on pouvait éviter ces morts, monsieur le vice-ministre, si les conditions étaient bonnes, si on avait pris soin de ces prévenus qui étaient malades, si on donnait la nourriture à ces prévenus.
Madame,
qu'est-ce qui manque?
Je viens d'enterrer un de mes fils aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il est mort parce que les conditions de vie ne lui ont pas été favorables.
Mais c'est différent des prisonniers, monsieur le vice-ministre.
Les gens s'alarment tellement que ils veulent. Il y a peut-être d'autres cartes derrière toutes ces déclarations qui sont en train d'être faites. nous sommes en train d'étudier le cas, pas étudier le cas, nous sommes en train de procéder au ravitaillement de toutes les prisons. De toutes les prisons. Et depuis hier, le ministère des Finances a débloqué une partie de somme qui sera directement, je crois, demain ou après-demain, affectée aux prisons et commencer à ravitailler. Et donc, nous sommes en train de travailler là-dessus. Et je pense que tout ce que les gens sont en train de supputer va cesser. Il y a un problème. Mais ce problème est en train d'être solutionné.
Vous avez affirmé vous-même, monsieur le vice-ministre, qu'il y avait un problème au niveau du ministère des Finances qui ne voulait pas ou qui refusait de débloquer les fonds pour ravitailler les prisons.
Mais oui, c'était une sonnette d'alarme. Et le ministère des Finances a débloqué de l'argent.
40% du fonds demandé.
Pardon? Oh,
le ministère des Finances a débloqué 40% du fonds que vous avez demandé,
oui,
ou plus?
Oui. C'est un processus. Vous savez que nous avons trouvé le pays dans une situation difficile. Et c'est un processus. Nous sommes en train d'aller petit à petit. Je crois peut-être que d'ici la fin du mois, on aura couvert toutes les prisons.
On vous garde encore dans cette émission, monsieur le vice-ministre Onésime Ndoudi, président national de l'Organisation congolaise pour la défense des prisonniers. Comment vous analysez cette situation?
Madame la journaliste, c'est regrettable d'entendre un responsable dire ce qu'il dit. C'est depuis plusieurs années que la situation carcérale est tellement catastrophique en République démocratique du Congo. Sur ce plateau, j'ai à les dénoncer à plusieurs fois et dans notre chaîne de télé. Dans notre pays, l'État est démissionnaire. Nous n'avons pas l'État. Le vice-ministre est en train de vous confirmer ici que sur les fonds demandés, sur 100% des fonds demandés, le ministère des Finances n'a débloqué que 40%. Et les 40%, pour s'occuper de quel établissement pénitentiaire, madame les journalistes? Les conditions carcérales en République démocratique du Congo, nos prisons sont des mouroirs. En dehors du surpeuplement, il y a tellement promiscuité que les droits, les vice-ministres parlent que les prisonniers ne sont privés que de leur liberté. Mais toutes les autres conditions, tous les autres droits, leur sont dit. C'est faux. Les prisonniers en République démocratique du Congo ont perdu pas seulement les droits à la liberté, mais tous les droits. Ils n'ont pas droit à la santé, ils n'ont pas droit à la nourriture, ils n'ont droit à rien. Même à l'expression, ils n'ont pas les droits. Ils ont seulement droit, ils n'ont pas de droits. Alors, nous, par cette occasion, nous sollicitons au président de la République qui prône l'état des droits de s'impliquer personnellement pour les cas qui concernent les établissements pénitentiaires dans notre pays. Puisque c'est chaque jour. Ici, on vous parle de 10 morts depuis le 8. Mais moi, je peux vous dire que c'est plus de 20 morts aujourd'hui. Du 1er janvier, aujourd'hui 8 janvier.
Toujours à Makala.
Toujours à Makala. Si vous allez vers 4h30 du matin, en face de la prison centrale de Makala, vous verrez comment les cadavres sortent de la prison. Il y a une catégorie de prisonniers qu'on ne place, qu'on donne pas l'accès aux visiteurs, qu'on appelle des moribonds. C'est comme mon co-débatteur venait de le dire. Si vous êtes un chrétien et vous accédez à ces gens-là, ce jour-là, vous n'allez pas manger. Et vous sortirez de la prison larmes aux yeux.
Qu'est-ce qui explique cela, Onésime Ndoudi?
Nous avons une difficulté dans notre pays.
Moyens.
Donc c'est la politique. Il n'y a pas une politique carcérale en République démocratique du Congo. Il y a eu des assises en 2006 ou 2007, si je ne m'abuse, avec
2007, je crois.
Le ministre Missaï à l'époque. Mais après son départ, rien. Chez nous, il n'y a pas continuité des affaires de l'État. Si un régime arrive ou un ministre arrive, tout ce que son prédécesseur a fait, c'est diabolique. Il faut changer tout. En 2010 ou 11, avec le ministre Luzolo, il y en a encore eu des assises, on s'y passe, mais après cela, rien ne change.
Mais les recommandations ne sont pas appliquées.
Mises en application. Rien ne s'est fait. Je l'ai reproposé de faire comme à Singapour, de privatiser les prisons, puisque l'État n'a pas de moyens pour pouvoir gérer les prisons qui sont à la charge du ministère de la Justice. En dehors qu'il y a promiscuité, nous avons proposé sur ce plateau qui est d'abord réforme du système pénitentiaire, du régime pénitentiaire en RDC. Puisque nous, le régime pénitentiaire en RDC est d'ici de l'année 1965, si je ne m'abuse. Ce n'est pas conforme aux règles minima de la détention des Nations Unies que nous avons ratifié. Nous avons proposé à l'État congolais de pouvoir le code pénal congolais doit encore être révisé aussi, puisque qu'est-ce que nous voyons? Mais mettre en place une justice réparative, puisque nous trouvons sur le terrain, je suis avocat, quand un inculpé est arrêté à la police, nous avons une difficulté auprès de l'OPJ de pouvoir apprécier les faits et qualifier l'infraction. Il demande de lui payer, par exemple, $20. L'inculpé a des difficultés de trouver $20. Il est transféré au parquet. Le ministère public n'a même pas le temps d'instruire. Il ne va lire que seulement la note d'OPJ. Il place la personne sous mandat d'arrêt provisoire et lui demande de lui payer $200 de caution. $20, il n'a pas eu. Et auprès de toi, tu as $200. Pour pouvoir inciter la famille à chercher de l'argent, on envoie la personne en détention préventive à Makala. Et une fois à Makala, il est oublié. J'ai entendu ici le vice-ministre dire que il y a un commissaire général chargé de l'inspection, mais madame, j'étais coordonnateur du collectif des avocats de Prison Fellowship d'IRC, partenaire de l'État congolais dans le domaine pénitentiaire, où j'avais la charge de contrôler la validité et la régularité des documents de la détention, puisque l'État est incapable de pouvoir payer les services que le régime pénitentiaire demande de placer des inspecteurs pour pouvoir contrôler la validité. L'État n'a pas de moyens pour pouvoir payer ça. Et nous avons fait ce travail-là. Mais c'est déplorable, s'il faut le dire aujourd'hui.
Merci Onésime Ndoudi, Emmanuel Cole. Avant de réagir aux propos du vice-ministre, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Rio Barouani Amis, depuis la ville-province de Kinshasa, précisément dans la commune de Ngiringir. Les conditions carcérales en République démocratique du Congo sont déplorables car la vétusté des établissements pénitentiaires et la carence de nourriture sont parmi les raisons de plusieurs décès et même des évasions. Cependant, je me demande que pensent les directeurs de toutes ces prisons pour mettre fin à toutes ces situations. Sinon, nous serons toujours nourris des discours politiques sans aucun changement sur le terrain. En réalité, malgré l'intervention de l'acteur principal qui est l'État, toutes ces prisons doivent également s'organiser à travers ces comités pour créer certaines choses. À l'exemple du champ où les prisonniers doivent travailler et après trouver de quoi manger. Et les dons et les subventions internes comme externes leur permettront de s'organiser davantage.
Qu'est-ce que vous pensez, Emmanuel Cole, au sein des prisons, les prisons peuvent s'organiser avec les champs pour aider les prisonniers à pouvoir se nourrir et toujours pas tout attendre de l'État.
Oui, tu as raison, madame. Nous qui nous sommes dans l'école du docteur Étienne Tshisekedi, héros africain, nous sommes en train de mener son combat. Et je regrette beaucoup les propos du vice-ministre, alors que je le considérais comme élève d'école l'université du docteur Etienne Tshisekedi, que j'ai fait partie. Mais hélas, madame, le ministre a parlé qu'il y a le procureur général, patati patata, qui va en prison. Il va où? Moi, nous, on va là-bas chaque jour. On ne voit pas. D'ailleurs, je peux vous donner un exemple, un preuve. Je viens de faire sortir deux garçons de lundi. Cet garçon a été condamné 3 ans au tribunal de paix d'Ingalema. Mais là, il a passé 6 ans. Il y a aussi tribunal de paix de Asusa. Nous avons trouvé plus de 10 cas comme ça. Et nous avons travaillé jusqu'à tous étaient sortis. À l'heure actuelle, nous détient plus de 50 cas de gens qui sont déjà condamnés. Ils sont dépassés les durées. Il y a certains 2 ans, 3 ans, 1 an, 40. Mais si c'est vraiment l'inspecteur que le vice-ministre est en train de dire, ils font leur travail, est-ce qu'on peut trouver 7 cas?
Je alors, le vice-ministre a dit qu'on y va progressivement jusqu'à épuiser tous les dossiers hein, pour les gens qui doivent être libérés.
Oui, mais madame, je suis en train de vous dire que si le procureur général de la République, tel que le vice-ministre vient de dire, il fait son travail, est-ce qu'on peut trouver quelqu'un qui est condamné 3 ans, elle est dépassée 3 ans, 6 ans, et où est-ce trouvé le ministre public? Elle était où? Parce que lorsque une personne est condamnée, le ministre public est informé. Il doit poursuivre pour exécuter le jugement et de voir si le jugement est fini, mettre la fin du jugement, sortir des gens. Mais lorsque nous trouvons des gens qui sont déjà condamnés et leur condamnation est dépassée largement, et le vice-ministre nous dit qu'il y a un contrôle, même les cachots, madame. Chaque parquet il doit contrôler le cachot. Ça ne fait pas. Moi, Bandal, ainsi, une fois je suis arrivé là-bas, un dimanche, on a trouvé des gens qui sont faits une semaine. Même les femmes, on met les femmes et les hommes dans le même cachot, madame. Et quel est le travail du procureur? Donc, nous voulons, on n'a pas un combat avec l'autorité. Nous voulons aider l'autorité. Mais je crois que vice-ministre vient d'arriver. Elle ne connaît pas les réalités. Parce que vous savez, nous avons commencé à fréquenter les prisons. Ça fait moi-même, je peux vous dire, plus de 10 ans, nous connaissons la réalité. Donc, comme je suis en train de vous dire, sur 8000 quelques, il y a seulement 500 qui sont condamnés. Quelles sont les conditions qui font que les procédures judiciaires sont trop longues? Parce que vous savez que vous trouvez quelqu'un qui a fait 1 an prévenu. Côté militaire, on ne parle même pas. Parce qu'on parle souvent CPK. Mais allez à Nolo, vous trouvez aussi quelqu'un qui a fait 5 ans sans être condamné. Donc, c'est partout. Donc, moi, je voudrais dire que, vous dites, il y avait les professionnels en prison à l'époque. Mais l'ancien directeur qui était passé, il y avait M. Dido, qui a fait plus de 15 ans à la tête de cette prison. Il a pris sa corps à la maison et il a tout détruit. Dido a tout détruit et ça a levé que toute l'installation des professionnels, tout était détruit. Donc maintenant, il faut le faire.
Alors, dans votre communiqué, Emmanuel Coll, vous recommandez aux familles éprouvées de porter plainte contre le gouvernement et le ministère public en vue d'être dédommagées. Voilà. Est-ce que vous pensez que ces familles ont les moyens pour porter plainte? Il faut engager un avocat, il faut payer les honoraires de l'avocat. Vous pensez que ces familles ont les moyens pour ça ou bien vous, la Fondation, va accompagner ces familles?
Oui, c'est comme le vice-ministre, je crois qu'elle est une bonne volonté, comme il vient d'arriver. Parce qu'on dit le peuple d'abord, il faut vraiment occuper de les vénables. Lorsqu'on parle de peuple, nous sommes qui est dans l'université de Dr Etienne Tshisekedi, nous on ne doit pas fermer les yeux. On veut aider les vrais combattants, les vrais étudiants de l'université de Dr Etienne Tshisekedi pour que les conditions de prison en RDC soient être confortables et que les prisonniers. D'abord, lorsqu'on dit on parle d'un prisonnier, ceux qui ne sont pas condamnés ne sont pas prisonniers. Ce sont les détenus préventifs. Bon, on parle d'un prisonnier, c'est quelqu'un qui est condamné. Vous voyez? Donc, il y a des choses différentes. Donc, d'un état de droit, comme je suis en train de dire, si un prévenu mort et qu'elle n'a pas encore condamné. D'État, il doit expliquer pourquoi le monsieur est mort.
Alors, vous allez accompagner ces familles-là à porter plainte, c'est
tout
ça ma
fait,
question.
Tout à fait.
Merci, Emmanuel Cole. Bernard Takahashi, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Goma.
Il faut une réforme de la justice. Et si elle existe, c'est qu'elle est vraiment très ancienne et n'est plus adaptée aux réalités du moment. On ne respecte pas les conditions de l'espace des maisons carcérales. C'est qu'on ne veut pas respecter les conditions de présumés coupables et de condamnés. Tous sont mélangés dans une même condition. Nos procureurs, qui devraient être le garant, le représentant de la justice, le maître de la loi, eux-mêmes ne maîtrisent même pas l'effectif des détenus. Si on ne connaît pas même l'effectif, on ne respecte même pas les délais dans lesquels il faut traiter un dossier judiciaire. Oh, la dernière, il y a aussi l'insuffisance des magistrats. Les magistrats sont débordés par des dossiers. Voilà ce qui nécessite une réforme de la justice au Congo.
Monsieur le vice-ministre, il faut réformer la justice au Congo, revoir les procédures judiciaires qui sont trop lentes, un peu trop des désordres au niveau des maisons carcérales. Comment vous répondez à tout ça?
Merci, madame. Je commence par dire d'abord que j'ai fait plus de 27 ans à côté de Tshisekedi. J'ai été même son conseiller juridique. Je sais ce que je dis. Et donc, nous, c'est d'abord les peuples. Et si nous sommes en train de parler ici, c'est parce que, si nous sommes aujourd'hui vice-ministre, c'est tout simplement parce qu'on reconnaît en nous une certaine dignité, une certaine responsabilité et une certaine probité morale. Je reviens sur votre question. Ça fait 4 mois. Depuis que ce gouvernement est en place. Et vous avez entendu le vice-premier ministre et ministre de la Justice, chaque jour ne cesse de le dire, et moi-même d'ailleurs, que nous sommes en train d'engager des réformes à tous les niveaux. Nous ne sommes pas des gens qui des discours, non, non. Nous sommes des gens qui doivent poser des actes pour que la population se rende compte que nous sommes effectivement en train de travailler. Donc les réformes sont en cours et nous avons communiqué davantage en ce qui concerne toutes ces réformes. Les réformes de l'appareil judiciaire, les réformes des services pénitentiaires, tout ça c'est en chantier. Je reviens sur les conditions de vie de nos compatriotes qui sont en détention. Nous sommes tous conscients. Nous sommes tous conscients. Et ceux qui sont au plateau et nous-mêmes, nous sommes tous conscients que les conditions de vie de pensionnaires de prison ont toujours été difficiles depuis un certain temps, depuis des années. Mais depuis que nous sommes là, et c'est pourquoi je dis, c'est un processus. Nous avons, et vous avez vu, les inspecteurs descendre. Personne ne peut le dire. Les inspecteurs sont descendus. Et ils ont fait le travail. Et le premier lot, vous l'avez vu, c'est à la télé, dans le média. Le premier lot a été libéré. Et nous allons continuer. Nous ne pouvons pas diriger le pays par un coup de baquet magique. Non, c'est un processus, c'est une question de réflexion profonde. Et donc, on ne doit pas s'attarder à dire que on vient, que nous, on prend son temps, on dit écoutez, tout le monde est
là. Monsieur le vice-ministre, on a un petit souci avec votre ligne. Essayez de bouger un peu pour améliorer la qualité.
Oui,
allez-y.
Vous m'entendez?
Oui, ça s'est amélioré.
Donc, je disais, on ne dirige pas un pays par un coup de baguette magique. Nous sommes arrivés au ministère de la Justice, il y a de cela 4 mois, et tout le monde est en train de voir ce que le ministère de la Justice est en train de faire. Nous avons fait libérer quelques-uns de nos compatriotes qui étaient en conflit avec la loi, et dont on a estimé peut-être qu'avec les procureurs généraux, on a estimé qu'ils devaient bénéficier de la liberté provisoire pour certains.
et pour d'autres des libérations conditionnelles.
Alors aujourd'hui, il y a un problème, il y a un problème de famine qui se pose dans les prisons. Vous avez le ministère des Finances a libéré 40% des fonds que vous avez demandé pour ravitailler les prisons. Comment vous comptez résoudre ce problème, monsieur le vice-ministre?
Non, mais nous sommes, vous avez donné une partie de réponse. Donc nous sommes en train de solutionner le problème. Ce n'est pas pour rien que le ministère de la Justice a débloqué le 40%. Donc je dis que c'est un processus. Nous avons trouvé d'abord comment nous avons trouvé la caisse de l'État? Ça, il faut d'abord s'imaginer. La caisse de l'État était presque vide. Et il fallait commencer il fallait d'abord trouver un peu de moyens pour commencer à chose. Dès que nous sommes arrivés, nous avons engagé. Nous avons, il y a 3 mois. Nous avons engagé, nous avons demandé à ce qu'on débourse le fonds, mais le ministère des Finances était à la recherche de l'argent. Et lorsqu'il a trouvé un peu de moyens, il a débloqué.
Est-ce que ça veut dire que d'ici le week-end, les prisons seront ravitaillées, approvisionnées, monsieur le vice-ministre?
Mais je suis certain, moi je ne suis pas le gestionnaire des finances, mais je pense que comme le ministère des Finances, le ministre des Finances a commencé à libérer déjà. Je pense qu'il est conscient de ce qui est en train de se passer dans des prisons.
Merci.
Et il va continuer à libérer le fonds. Donc, nous sommes conscients tous de ce qui est en train de se passer. Les morts, il y en aura toujours.
Merci, monsieur le vice-ministre. On va vous redonner la parole pour conclure. Monsieur Onésime Ndoudi, on va prononcer pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani.
Ougane Mungwajue Gabriel, depuis Kisangani, province de la Tchopo. C'est regrettable de voir un gouvernement qui a un slogan « le peuple d'abord » soit incapable de mettre en place les conditions carcérales suffisantes. Car d'après tout, la vie d'un être humain est sacrée, qu'il soit criminel ou pas. Ces morts en masse de prisonniers prouvent en suffisance qu'il y a un problème de leadership congolais. Les prisonniers sont morts pour cause de la famine, alors que l'argent est détourné dans les trésors publics pour des fins obscures qui devraient venir en assistance des prisonniers. Les prisonniers contribuent aussi au développement d'un pays, par exemple en cultivant les champs pour le gouvernement. Par conséquent, il y aura de la nourriture permanente. Ils peuvent être servis aussi comme main-d'œuvre pour la construction de certaines infrastructures jusqu'à l'épuisement de sa peine.
Maître, Onésime Ndoudi.
Merci madame. La semaine qui commence, je chercherai à rencontrer les vice-ministres, puisque nous devons les aider, puisque c'est comme s'ils n'ont pas encore la maîtrise de la machine judiciaire. Ici, à l'entendre parler, que les gens meurent toujours, mais ils ne doivent pas mourir dans ces conditions-là. L'État qui les place dans ces conditions-là doit respecter les droits qui reviennent aux détenus. Nous avons plus de détenus préventifs que de condamnés. Des gens qui ne sont pas prisonniers. Ils doivent mettre en place des structures pour pouvoir garder les gens. Et la loi dit dépasser les délais que les dossiers de 110 jours que les dossiers des détenus doivent être présentés devant son juge, l'arrestation devient arbitraire. Quand l'arrestation devient arbitraire, on doit libérer les gens. Moi, j'ai un client qui a été condamné de 2 ans à la Tripé Gombe, qui il y a déjà 2 ans et 6 mois. 6 mois de plus, il est là. Comme le chef de l'État est en train de prôner l'état de droit, avec mon co-débatteur ici, après ici, nous allons nous fixer rendez-vous. On doit initier une action contre l'État congolais. Je le sais que l'État congolais est démissionnaire. Toutes les fois qu'il est civilement responsable, il ne dédommage pas. Il ne dédommage pas. Mais cette fois-ci, nous avons un chef de l'État qui prend l'État de droit. Nous allons encore initier une action contre l'État congolais parce que les droits de l'homme n'est pas respecté à milieu carcéral.
Alors, comment améliorer les conditions carcérales en RDC? C'est vrai que cette question revient plusieurs fois, on donne des propositions, mais malheureusement, on a l'impression que ces propositions ne sont pas prises en compte, mais ça ne nous empêche pas de revenir sur les solutions pour améliorer les conditions carcérales en RDC.
Les ministres de la Justice, qui a son pouvoir sur les parquets, doit mieux gérer les magistrats du parquet. Parce que c'est là la cause. C'est les magistrats qui placent les prévenus en détention préventive. Mais qui ne sait pas, étant garant de la loi, il est garant de la loi. C'est lui qui est là pour pouvoir protéger la loi. Mais c'est lui qui est là pour violer à dessein la loi. C'est lui qui viole à dessein la loi. C'est un hors-la-loi. Ce sont eux qui doivent être à la prison que ceux qui sont en prison. Nous demandons au ministre de la Justice, nous allons vous aider. Il faut être un peu tenant pour pouvoir sanctionner les magistrats. Puisque les magistrats se prennent pour de Dieu. Ils font ce qu'ils font.
Merci, Maître Onésime Ndoudi. Emmanuel Kol, vous, qu'est-ce que vous proposez?
Oui, madame, vous savez, moi...
Il faut conclure, hein, rapidement,
oui,
puisqu'on a plus beaucoup de temps.
Moi, j'ai eu la chance de rencontrer le docteur Étienne Tshikidzi, le vrai propre d'abord, qui nous disait que dans toutes choses, mettre le propre devant. Et nous, on travaille parce qu'on met le propre devant. Nous, on va chercher. Si le vice-ministre, si elle est dans l'université de Docteur Étienne Tshikidzi, on va l'aider. Mais si elle n'est pas dans l'université d'Étienne Tshikidzi, on peut travailler avec Étienne Tshikidzi pendant 25 ans, mais qui n'est pas dans l'université d'Étienne Tshikidzi. Mais nous, on est dans l'université d'Étienne Tshikidzi, nous sommes prêts à l'aider. Et nous, comme Maître vient de dire, nous avons plusieurs dossiers. Les magistrats militaires et civils, ils sont montés, plusieurs dossiers montage. Il y a quelqu'un qui a fui à Brazzaville, vous l'arrêtez, il vient au dossier de Laurent Désiré Kabila. Elle est là à 18 ans, madame. Avant même Laurent Désiré Kabila est mort, le ministre était à Brazzaville. Donc, pour vous dire que, je suis en train de vous dire que nous sommes prêts à aider le vice-ministre et son chef.
Son titulaire.
Oui, son titulaire.
Merci, Emmanuel Kol. Monsieur le vice-ministre Takaïché Bernard, votre conclusion?
Oui, madame, je suis un peu au regret de constater ou d'apprendre des histoires sur le plateau. Et de la part de mon co-débatteur, maître, j'oublie les noms. Mais apparemment, il ne maîtrise pas notre constitution, il ne maîtrise pas non plus la loi qui gère le magistrat. Le ministre de la Justice n'a aucun contrôle sur le magistrat. Il n'a que le droit de donner l'injonction. De poursuivre. Il ne peut pas l'arrêter. Il ne peut pas arrêter le magistrat s'il a déjà commencé à poursuivre. Il ne peut pas l'arrêter. Et donc, il n'a aucun contrôle. Moins encore, le ministre de la Justice ne peut pas sanctionner un magistrat. Donc, le magistrat est géré par le Conseil supérieur de la magistrature. Et c'est ce que notre camarade ignore. Les confrères ignorent. Et donc, la porte du ministère de la Justice est ouverte, grandement ouverte pour tout celui qui voudrait
Merci, monsieur le vice-ministre. Désolé, c'est la fin de cette émission. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.